bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, une émission qui explique les sujets européens pour combattre les idées reçues avec Tania Rachaud. Cette émission est réalisée par Léobardo Arango. Nous enregistrons depuis l'hôpital central de Nancy pour un épisode spécial sur le thème de la bioéthique, en partenariat avec l'Université de Lorraine, les Surligneurs et Amicus Radio. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en mai 2026, pour prolonger nos précédentes discussions, notamment sur l'accouchement sous X. Aujourd'hui, alors que les états généraux de la bioéthique se sont déroulés de février à avril 2026 et que le règlement dit SOO, pour Substance of Human Origin, devra être appliqué à partir d'août 2027. Deux marqueurs qui reviendront dans nos échanges. Pour en discuter, Maria Fartunova animera la conversation avec moi.
Bonjour Tania.
Maria est professeure de droit public à l'Université de Lorraine et titulaire de la chaire Jean Monnet, bioéthique et gouvernance européenne. Et c'est grâce à elle que nous sommes ensemble pour échanger avec nos deux invités. Nos deux invités, donc le professeur Gérard Audibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anesthésiste réanimateur, mais nous allons surtout vous écouter pour votre rôle au sein de l'EREG de Nancy, l'espace de réflexion éthique Grand Est, en tant que donc directeur du site. À vos côtés, Bénédicte Thiriès, qui est de formation initiale infirmière puéricultrice, et après un master en management des organisations sanitaires et sociales, un MOS comme on dit, vous êtes devenue coordinatrice EREG pour la partie Lorraine. Et donc vous allez justement tous les deux nous expliquer ce qu'est l'EREG pour commencer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit finalement aux questions éthiques.
Alors, les espaces de réflexion éthique régionaux ont été créés en août 2024 dans une loi relative à la bioéthique. Et les missions visent à accompagner les professionnels de santé, les institutions et les citoyens dans leurs questionnements éthiques autour de colloques, de débats et de formations. Alors, l'EREG, en fait, fonctionne avec trois sites différents. Un site d'appui en Alsace, qui se situe à Strasbourg. Un site d'appui en Champagne-Ardennes, qui se situe à Reims. Et notre site d'appui lorrain, qui se situe à Nancy. Alors, l'EREG a différentes missions. Ces missions sont notamment un observatoire des pratiques éthiques. Cet observatoire, nous l'avons réalisé en 2025. Il nous permet de bien connaître, en fait, l'acculturation à l'éthique au sein de notre région. Et en fait, il nous permet également de bien connaître les thématiques qui sont abordées par les comités d'éthique au sein de leurs différentes structures.
Comment est-ce que l'EREG accompagne les citoyens sur les questions éthiques ? Parce que j'imagine que c'est un sujet complexe en interne déjà, mais l'apporter à l'extérieur ?
Nous organisons en fait auprès des lycéens différentes manifestations sur des sujets éthiques. L'objectif, c'est toujours de créer le débat. Et en fait, pour la population de manière générale, nous organisons des ciné-débats en fait sur des thématiques qui sont différentes. Alors le film, c'est un bon moyen en fait de créer l'intérêt pour la population et par la suite de mettre en place un débat et d'échanger avec les citoyens.
D'accord. Et les comités que vous avez mentionnés, c'est par ce biais donc se fait aussi l'aspect réflexion. Vous venez de le mentionner. On essaye de créer le débat pour échanger, pour réfléchir à ces sujets d'éthique. Donc c'est par le biais aussi des comités que ça se fait principalement ?
Alors oui, ça au niveau des organisations, en fait, nous les aidons à mettre en place les comités d'éthique et donc à organiser cette réflexion au sein des organisations en faisant un accompagnement qui est assez individuel et qui permet de suivre aussi leur temporalité. C'est-à-dire que la temporalité de l'un n'est pas celle de l'autre. Il faut parfois du temps pour que la réflexion éthique infuse dans l'organisation et qu'elle concerne tout le monde.
Un des aspects auxquels on est attaché aussi, c'est qu'il n'y a pas que les comités d'éthique pour créer la réflexion éthique au sein d'un établissement. Un comité d'éthique, ça suppose une masse critique dans l'établissement. Et en fait, il y a plein de petits établissements, de petits centres hospitaliers, mais aussi de petits établissements sanitaires, médico-sociaux, qui n'ont pas tout à fait la masse critique. Et donc, ils peuvent créer simplement des groupes, des moments de réflexion éthique. Enfin, on essaye de leur proposer d'autres solutions que le comité d'éthique, qui est un petit peu formel, mais qui nécessite d'être nombreux, comme c'est le cas évidemment au niveau d'un CHU.
D'accord. Ça vient de leur demande ou c'est plutôt vous qui le suggérez ?
Alors, en fait, il y a les recommandations de la HAS qui mettent en avant, en fait, cette nécessité de promouvoir l'éthique au sein des établissements, mais c'est vraiment une démarche volontaire de la part des établissements.
Mais on a envie d'infuser une acculturation. Parce qu'en fait, les gens se rendent... L'éthique a une image de marque, un peu de comme la philo, un petit peu de choses, un petit peu éthérées, un petit peu d'intello. Et pour nous, l'éthique, c'est pas ça. J'essaye de, avec les formations qu'on fait avec Bénédicte, on essaye de démontrer à tous les acteurs du soin que l'éthique, c'est au quotidien. Ils ont des problèmes d'éthique au quotidien. Simplement, ils n'arrivent pas à mettre le mot éthique sur leurs problèmes du quotidien.
Et est-ce que ça implique qu'il faille un peu vulgariser le sujet, finalement ?
Ah oui, totalement. Ça fait partie de nos premières missions et nos premières manières, nos premiers contacts, en fait, avec les établissements aussi. De leur expliquer ce qu'est l'éthique et puis de dédramatiser le sujet, de partir dans quelque chose d'assez concret, quoi.
C'est quoi la porte d'entrée, alors, justement, pour être concret ? Comment est-ce qu'on peut arriver à présenter de façon simple le sujet de l'éthique ?
Alors, il y a une porte d'entrée qui est très simple, qui a été mise en place en grande partie par Bénédicte cette année. C'est qu'on a créé une réunion régionale qu'au départ, on avait appelée réunion des comités d'éthique et que les gens nous ont demandé de changer. On a dit que c'était une journée de réflexion à éthique Lorraine. Et donc, les gens qui viennent, on s'aperçoit qu'on a des retombées de cette réunion et que les gens qui ont assisté à cette réunion, après, reviennent vers nous pour discuter de formation. Pas toujours, peut-être, qui vont déboucher sur un comité, mais en tout cas, qui vont faire bouger les lignes dans leur établissement d'une réflexion éthique.
Donc finalement, la première étape, c'est vraiment d'arriver à mettre un pied dans les différentes organisations pour ensuite faire de la formation, mettre en place les discussions. C'est assez progressif.
Oui, tout à fait. Un autre moyen aussi que nous avons pour pouvoir intéresser les différents acteurs, ça va être aussi des cas concrets. C'est-à-dire qu'on arrive à leur montrer, à leur démontrer qu'ils sont concernés au quotidien, en fait. Qu'ils sont vraiment, qu'ils peuvent s'identifier à une situation, se rendre compte que, ah bah oui, j'ai déjà vécu ça, ah bah oui, effectivement, comment progresse la réflexion, ah bah oui, en équipe, on a déjà vécu ça aussi, et comment on fait pour progresser ensemble et réfléchir ensemble.
Oui, c'est une réflexion, un peu comme des analyses de pratiques de travail.
Tout à fait.
On a une deuxième porte d'entrée qui est l'Observatoire des pratiques. On a sollicité tous les établissements sanitaires et tous les établissements médico-sociaux de Lorraine pour voir quel était l'état des lieux de leurs pratiques en matière de réflexion éthique. C'est un travail qui a été fait l'été dernier. Et donc, alors évidemment, on n'a pas eu une réponse exhaustive, mais déjà, il y a un certain nombre d'établissements qui nous ont répondu. Et ça aussi, c'est une autre porte d'entrée pour aller au contact des gens.
Parfois, ça doit être aussi compliqué de ne pas être dans la critique, puisque ça touche aussi justement aux pratiques quotidiennes.
Bon, on est vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'on prend, on accompagne les structures là où elles en sont. Et donc, on arrivera toujours à trouver ce qui est positif et ce qui est déjà mis en place pour pouvoir s'appuyer dessus et ouvrir les horizons, quoi. Donc l'objectif, c'est plutôt de valoriser ce qui est fait.
Puis on essaye vraiment de s'abstenir de tout jugement, quoi. Il y a quand même une petite critique qu'on fait de temps en temps, il faut bien le dire. Bénédicte a évoqué tout à l'heure l'accréditation et les recommandations de l'HAS. Et on sent bien que parfois, certains établissements nous contactent pour remplir des cases. C'est pas tellement qu'ils ont forcément un moteur puissant de réflexion éthique, c'est qu'ils souhaitent remplir les cases de l'accréditation. Alors on essaye, c'est toujours une porte d'entrée. Et après, nous, on essaye de les remettre sur les rails d'une vraie démarche éthique. En associant les soignants et la base, et non pas uniquement l'administration et la direction.
Oui, je comprends. Les organisations se sentent peut-être plus contraintes de devoir évoquer la question de l'éthique, et les sujets que vous abordez sont essentiels. Et j'imagine qu'il y a eu une évolution dans la pratique depuis la création aussi de l'EREJ en 2004.
Alors, oui, alors l'EREJ n'a pas été créé en 2004, il a été créé en 2018. Voilà. En fait, les espaces de réflexion éthique sont nés de la loi de 2004 et le décret d'application est sorti en 2012. Et les REJ, en fait, a été mis en place en 2014 et le site Lorrain en 2018.
D'accord. Et vous êtes tous les deux depuis le début, depuis 2018 ?
Moi, oui. Et Bénédicte a embarqué dans l'aventure un petit peu plus tard.
Voilà. Alors, moi, je voulais, en vous écoutant, puisque je vous côtoie maintenant depuis 2023, je découvre d'autres facettes de votre mission et de votre espace de réflexion d'éthique Grand Est. Et vous avez à juste titre tous les deux évoqué les cas concrets sur lesquels les institutions, les différentes structures vous interpellent ou qui sont des cas assez significatifs de besoin d'une réflexion à mettre en place une démarche éthique. Est-ce qu'il y a des cas qui se répètent ou qui peuvent être identifiés comme systématiques qu'un établissement rencontre ou des collègues rencontrent pour faire émerger cette question éthique ou cette réflexion éthique?
Alors, il y a de grosses thématiques, en fait, qui reviennent. On retrouve, par exemple, la contention, la liberté d'aller et de venir sont vraiment des choses qu'on rencontre souvent dans les structures sociales et médico-sociales.
Le refus de soins.
Oui.
Ça, c'est très, très prégnant. La sexualité en ESMS, c'est aussi un sujet qui revient. La fin de vie, c'est un sujet qui, à la fois, revient dans les discussions et c'est un sujet, quand on a demandé à l'Observatoire des pratiques cliniques, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement ? C'est la fin de vie qui est revenue en tête.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a une focale sur ces thématiques-là, outre l'actualité, bien sûr, législative ou...
Bon, l'importance des thèmes, je pense. Oui. L'importance des thèmes. La fin de vie, c'est un sujet assez naturel en EHPAD. On a fait une formation dans un EHPAD au début 2026 qui était assez intéressante. Parce qu'elle s'appuyait sur une action qui avait été menée par la psychologue de l'EHPAD et qui avait demandé à trois corps différents d'exprimer par des mots qu'ils ont regroupés après sur des murs de mots les résidents de l'EHPAD, les soignants et les familles de l'EHPAD. Et quand on leur dit en trois mots, exprimez ce que c'est pour vous la fin de vie, les trois murs de mots sont complètement différents. C'était vraiment très, très enrichissant comme expérience. On voit évidemment que c'est un sujet forcément important compte tenu de la moyenne d'âge qu'il y a dans les EHPAD.
Alors, l'EREJ a aussi un rôle important dans les états généraux de la bioéthique qui sont déroulés donc, de février à avril 2026. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Alors, qu'est-ce que c'est que les états généraux de la bioéthique ? Les états généraux de la bioéthique, c'est un dispositif de démocratie sanitaire, concept à la mode s'il en est, qui a été initié pour la première fois, je pense, en 2018 ou 2019, à l'occasion de la révision de la loi bioéthique qui devait avoir lieu en 2021. C'est donc une consultation citoyenne qui est impulsée par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui choisit dans l'actualité des sciences une dizaine de thématiques qui posent problème à la population, et avec l'arrière-pensée d'avoir des conséquences de modification de la loi sur ces différentes questions. Ça a été le cas en 2019. Et donc vous vous souvenez sans doute qu'au cours de la loi de 2021, par exemple, c'est celle qui a autorisé la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ça a beaucoup, beaucoup défrayé la chronique. Mais en fait, dans cette loi de bioéthique 2021, il y avait d'autres thèmes et d'autres points législatifs. Donc le CCNE a remis ça cette année dans l'idée d'apporter une nouvelle modification à la loi de bioéthique en 2028. Et pour cette échéance de 2028, eh bien, il y a eu une consultation qui a été réalisée à l'échelle nationale dans tous les espaces éthiques régionaux par le CCNE sur une dizaine de thématiques qu'ils ont choisies. Consultation qui a été doublée d'actions du CCNE où eux-mêmes ont audité des grands témoins sur ces questions d'éthique qu'ils estiment être les plus importantes en 2026.
Donc vous avez concrétisé cette approche, ces questions, ces thématiques sur le territoire lorrain. Donc ça veut dire auprès du grand public, par exemple ?
Alors, auprès de nombreux publics et pas toujours auprès du grand public, parce que c'est pas si facile que ça de toucher le grand public sur des notions d'éthique. En tout cas, par exemple, il y a une manifestation grand public qui était prévue à Nancy et pour laquelle, malgré un certain nombre d'actions de réseautage, on n'est pas parvenu à avoir une affluence significative.
C'était quoi le thème ?
C'était la fin de vie.
D'accord.
Pourtant, on avait mobilisé les associations de donneurs. Pardon, excuse-moi, c'était le don d'organes. On avait mobilisé les associations de donneurs. En revanche, il y a un format qui marche plutôt bien, c'est les ciné-débats éthiques, en utilisant le réseau des cinémas d'art et d'essai, qui ont souvent un public de fidèles. Et donc, on l'a fait à deux reprises cette année, une fois à Nancy autour du don d'organes, une fois à Metz autour de l'assistance médicale à la procréation.
Donc un débat avec...
Là, ça marche bien.
Avec vous deux ou avec des professionnels?
Alors,
en
pour,
plus
pour le don d'organes, le consentement au don d'organes, c'est un peu mathématique, donc j'ai fonctionné comme grand témoin. Pour l'assistance médicale à la procréation, on avait le professeur Agopian, qui est responsable du centre de PMA de Nancy.
Et il y avait une curiosité de la part du public présent?
Extrêmement forte sur le consentement au don. Un peu plus modeste, on va dire, sur l'AMP, mais ça a été une mauvaise conjoncture dans le cinéma, parce que dans la salle d'à côté du cinéma, il y avait un acteur très connu du cinéma français, et donc les gens, ils ont plutôt été de l'autre côté. Mais par ailleurs, on a mené énormément d'actions sur des publics jeunes, qui est une cible qu'on nous demande de toucher de façon prioritaire par le CCNE. Et par public jeune, j'entends les élèves de terminale, des lycées, les élèves des instituts de formation en soins infirmiers et les élèves des facultés de médecine.
Et donc, vous avez été vous-même en faculté de médecine. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une sensibilité aujourd'hui sur les questions d'éthique davantage?
Alors, au niveau de la faculté de médecine, on a eu quand même la chance d'être appuyé en fait par le doyen, qui nous a vraiment facilité les choses en invitant cordialement les étudiants à venir à ces différentes manifestations. Donc, il y a eu vraiment un retour positif. On a eu vraiment une bonne participation des étudiants sur ces différents sujets.
Et est-ce que les réflexions vous étonnent dans ce cas-là? Quand il y a un débat, ou ça correspond aussi aux échanges que vous pouvez avoir avec le milieu professionnel déjà?
Alors, on a eu quelques interventions qui étaient un petit peu, qui dénotaient un petit peu de ce qu'on pouvait entendre habituellement, notamment une défiance par rapport un peu à la médecine et par rapport des visions un petit peu complotistes, en fait. Donc, on était un petit peu étonnés de rencontrer ce type de propos en faculté de médecine, mais avec un regard critique, mais aussi bienveillant de la part des autres étudiants.
D'accord, mais oui, c'est étonnant, j'entends, parce que comme vous l'avez évoqué, là, l'idée est d'amener à la réflexion, pas forcément à porter des réponses, donc c'est vrai que l'aspect complotiste n'est pas évident.
Voilà.
Donc un accès au public jeune qui est primordial. Est-ce qu'il y avait d'autres types d'actions qui ont été menées dans le cadre des états généraux de la bioéthique?
Alors oui, nous avons aussi réalisé un questionnaire en ligne qui a quand même bien fonctionné. On a eu plus de 500 réponses sur les trois thématiques transversales qui vont nous permettre en fait d'avoir l'opinion en fait de la population générale sur ces différentes thématiques. Nous avons aussi réalisé en collaboration avec l'université et notamment la fac de médecine et de maïeutique, le master en éthique, une exposition de posters sur la thématique de la bioéthique. Et nous avons également travaillé en fait avec une étudiante de master sur le don d'organes. Elle a fait une étude de droit comparé international sur le consentement au don d'organes.
Oui, donc très complet, effectivement, et beaucoup de travail, finalement, a posteriori pour traiter notamment le questionnaire. C'était quoi les trois thématiques?
Alors, la première, c'est le consentement au don d'organes. La deuxième, c'était le non-anonymat du don et en situation d'AMP. Et la troisième, c'était l'AMP post-mortem.
Des sujets sur lesquels on va revenir dans un instant. Et quels sont finalement les résultats qu'on peut tirer aujourd'hui, en mai 2026, de ces états généraux?
Alors, ces synthèses, elles vont être remontées, en fait, au niveau de la CNERER. Donc, c'est la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique qui regroupe tous les RR et au niveau du CCNE. Et pour les conclusions, on va pouvoir vous en parler là, en fonction des différentes thématiques que nous avons abordées.
Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Dis-moi ce que tu fais quand on me l'a nuit et dis-moi ce que tu...
Dis-le, dis-le, oui. Je n'ai qu'une seule vérité. Des mensonges, j'en ai déjà dix. Déjà dix. Si c'est non ou oui, il n'y a qu'une seule vérité. Je ne ferai plus de ce
pire. Comme serpent qui n'a jamais ému. Ce nouveau toi je l'ai jamais eu.
Dis-moi tout ce que t'as jamais dit, oh. Dis-moi ta vie. Dis-moi ta vie.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies. Dis-moi ce que tu...
Dis-le, dis-le, oui. Je me perds dans tes pensées. Y'a plus de branches pour mon
voler.
Mon voler.
D'écouter Les oiseaux rares de Théodora et Juliette Armanet. Et nous allons maintenant aborder plus en profondeur les thématiques qui ont été évoquées dans la première partie lorsque nous discutions du rôle de l'ERJ et aussi des résultats des états généraux de la bioéthique qui se sont déroulés de février à avril 2026.
Alors oui, effectivement, tout ce que vous venez de nous dire, l'ERJ a été particulièrement actif sur deux thématiques en particulier et sur lesquelles vous avez apporté également votre regard, mais également mobilisé l'initiative citoyenne, la démarche citoyenne. Et le premier thème qui ressort, c'est celui, bien sûr, du consentement en don d'organes, qui occupe aujourd'hui une place très importante dans la réflexion pour une éventuelle évolution dans le dispositif législatif. Alors, quelle a été votre approche de ce sujet sur le terrain? Comment vous l'avez présenté? Et quelles ont été les réactions et les attentes du grand public pour une évolution législative à ce sujet?
Alors, le don d'organes, c'est une priorité nationale de santé publique. En France, le modèle qui a été choisi, c'est un modèle de consentement implicite. C'est-à-dire que vous avez probablement entendu tous ce slogan « On est tous donneurs, sauf si on refuse le don ». Et on refuse le don par l'intermédiaire de l'inscription sur un registre national du refus. Très bien. Malheureusement, cette stratégie fonctionne assez mal. Il y a très peu de gens inscrits sur le registre national du refus, moins de 1% de la population. La vérité, c'est que quand on fait un micro-trottoir, quand on interroge les gens à froid, si je vous interrogeais, probablement que j'aurais le même taux de réponse, à savoir que, grosso modo, dans la population française, 80% de la population est favorable au don d'organes. Donc on a un noyau d'opposition d'une vingtaine de pourcents qui est assez constante dans le temps. Sur la décennie, ça a à peu près pas bougé. En revanche, en situation réelle de mort encéphalique, qui est une des situations majeures qui donne lieu à un don d'organes, eh bien, on a un refus. Alors, comme la loi le demande, on ne demande pas de consentement aux familles, on demande aux familles de témoigner de la position du défunt. Parce que, effectivement, bien sûr, il ne s'est pas inscrit sur le registre national des refus, et donc on demande à la famille de témoigner de la position du défunt. Enfin, imaginez-vous cette situation où vous venez de perdre un proche, puisqu'on vient de vous annoncer qu'il est décédé. parfois dans des circonstances très brutales, comme un accident de la route. Et la question qui suit le décès, c'est quelle était sa position sur le don d'organes. Alors là, on est extrêmement loin des 20% de la population française. Et la position de refus, en tout cas de témoignage du refus, eh bien, elle est très très importante. Elle augmente d'année en année à l'heure actuelle. Et donc, pour atteindre en 2025, 37%. Et les résultats des premiers mois de 2026 laissent à penser que ça va encore empirer cette année. Donc il y a une dérive majeure dans cette situation-là, dérive dont est parfaitement au courant l'Agence biomédecine qui essaye d'y remédier. Et donc qu'en pense la population ? Bah, les gens trouvent que le système est très très compliqué. Les gens trouvent que le système est très très compliqué. Il y a deux tendances. Il y a une tendance très forte, en particulier auprès des jeunes, qui disent « on est mal informé ». Donc c'était retrouvé auprès des lycéens, auprès des infirmières, auprès des élèves infirmières, auprès des élèves médecins. Ils s'estiment tous mal informés sur la question. Le don d'organes, ça n'est pas au programme ni de SVT, ni de philo, ça n'est sur aucun programme scolaire. Donc ça... Moi, ça me hérisse le poil pour quelque chose qu'on qualifie de priorité de santé publique, quoi. On leur parle de tas de choses à nos jeunes têtes blondes, mais pas du don d'organes. Et ils le déplorent. Eux-mêmes, quand on leur en parle, ils le déplorent. Et donc, inscrire cette question-là dans un programme scolaire, moi, ça me paraît quand même une démarche qui me paraît pas très compliquée. Pour autant auquel l'agence biomédecine n'est pas ultra favorable, pour des raisons qui m'échappent. Parce que ça coûte rien. Ça coûte rien. Alors, les programmes sont très chargés, c'est bien, mais bon.
Parce que finalement, en fait, le sujet est découvert au moment où il faut prendre une décision. C'est exactement. Ça que vous déplorez, ben
souvent,
ou c'est ça.
Très souvent. Alors, le sujet est découvert. C'est-à-dire que pourquoi le sujet est découvert ? Il y a une trentaine d'années, parce que malheureusement, je fais ce métier depuis un certain temps, les gens ne savaient pas ce que c'était. Il fallait déjà leur expliquer c'est quoi la mort céphalique, c'est quoi le don d'organes, etc. Maintenant, il y a une couverture médiatique qui est suffisamment importante. Les gens, ils arrivent en sachant ce que c'est. C'est pas la peine de leur expliquer beaucoup. Alors effectivement, il y a des gens qui sont un peu réticents au concept de mort encéphalique, mais je comprends pas, il est comme hier, il est rose, il est chaud, vous me dites qu'il est mort, mais son cœur bat. Bon, de temps en temps, il y a de l'explication de texte. C'est pas le cas majoritaire. Le cas majoritaire, c'est « Ah ben, on n'en avait pas parlé ». Et donc, en fait, vous ne connaissez pas la position de votre proche. Donc, un, il faut expliquer ce que c'est que le don d'organes. Et deux, il faut expliquer de façon majeure la nécessité de donner votre position à vos proches.
Et ce serait quelque chose d'un consentement explicite qui serait désormais envisagé ou on va rester encore sous...
Alors moi, je défends l'idée du consentement explicite, mais l'Agence de médecine y est farouchement opposée. Pourquoi ? Parce que quand vous avez l'idée d'un consentement explicite, la première idée que vous avez, qu'ont eu beaucoup de pays, vous qui connaissez bien l'Europe, c'est le consentement, un registre du oui. Et il y a plein de pays qui fonctionnent avec un registre du oui. Mais quand vous ne pensez pas au don d'organes, même si vous êtes pour, bah vous n'allez pas vous inscrire sur un registre du oui. Et le registre du oui, c'est un échec complet, c'est-à-dire que c'est un peu mieux que le registre du non, mais vous avez... 10-15% maxi de la population qui est inscrite sur le registre du oui. Donc en fait, vous ignorez toujours la position de 85% de la population. Donc le registre du oui, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc il faut avoir d'autres idées. Et bah, alors d'autres idées... une idée que je trouve, moi, très intelligente, c'est l'idée du Québec. Quand vous recevez votre carte d'assurance maladie, donc chez nous, la carte vitale, eh bien, par l'intermédiaire de ça, vous donnez votre position sur le don d'organes. Au Québec, avec la carte d'assurance maladie, reçoivent une étiquette. Je suis pour le don d'organes, je suis contre le don d'organes, et ils la collent sur la carte d'assurance maladie. C'est pas la panacée, mais il y a à peu près 40-45% de la population qui donne son avis.
D'accord. Et en fait, la question du don d'organes relance également une autre problématique, celle de l'anonymat de ce don, et plus particulièrement dans le cadre de la PMA. Alors, qu'est-ce que les états généraux de la bioéthique ont pu mettre en exergue sur cette question ? Quelles sont les revendications sociétales et vers quelle tendance se tourne-t-on en vue d'une évolution future du dispositif législatif.
Alors, il y a plusieurs questions, en fait, qui sont ressorties suite à ces consultations avec l'intervention de Michael Agopian et d'Irène Théry, qui est sociologue. Alors, tout d'abord, est-ce que les parents doivent systématiquement révéler à l'enfant son mode de conception ? Il y a ici, en conséquence, la question de l'accès aux origines. Ne sachant pas qu'il est issu du don, eh bien, l'enfant ne pourra pas accéder à ses 18 ans aux informations du donneur. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose. Donc le professeur Agopian disait qu'il y avait quand même de plus en plus d'accompagnement des parents au moment de la démarche d'AMP pour pour les diriger vers, en fait, une divulgation, on va dire, de ce secret ou une absence de secret, en fait, dans la relation avec leur enfant. Alors, il y a aussi la question des demi-frères et demi-sœurs issus du don. Est-ce qu'il faudrait permettre leur identification ? Ça permettrait d'éviter la consanguinité. Alors, effectivement, les dons ont tendance à être territorialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispatchage des dons partout en France. Donc, à partir du moment où ces dons sont quand même assez localisés, il n'est vraiment pas...
Peu probable d'avoir...
Il est peu probable.
On se souvient d'ailleurs de ce film Starbucks,
oui,
qui est un film canadien.
C'était notre support.
C'était la réunion d'une centaine de demi-frères et demi-sœurs du même donneur. Mais c'était au Canada.
Oui, ça c'est ça.
Mais ça veut dire aussi que le don ne peut pas provenir d'autres pays européens ?
Alors non, effectivement, si. Ah bon, on n'en a pas parlé,
pas
en fait.
Encore.
Ben non,
pas encore.
J'ai pas l'impression.
C'est
avec So.
C'est dans les vidéos.
Mais c'est pour l'instant, non. Ben nous, il nous a bien dit que c'était assez. Et même entre centres d'AMP, en fait, il n'y a pas d'échange de dons non plus de gamètes.
Donc dans les régions, il y a peu de probabilité de se retrouver avec un demi-frère ou une demi-sœur qu'on ne connaisse pas, puisqu'il y a une volonté de répartir nationalement les
non,
dons.
C'est
non, c'est pas ça.
C'est
ah pardon. C'est pas mal que je reformule.
C'est territorialisé, donc en fait, il y a un risque majeur, en fait, de...
Tous les dons
risque
de...
Mais c'est ça.
Alors comment est-ce qu'on accompagne dans ce cas-là?
Ben, l'objectif, ça serait de pouvoir identifier les différents parcours de dons pour qu'on puisse savoir effectivement qui est demi-frère et qui est demi-sœur. Donc, et qu'il y ait une identification. Après, jusqu'où va cette identification ? Est-ce qu'il y a après ? Mais on en parle aussi avec l'évolution de la place éventuelle du donneur. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles familles à inventer ? Est-ce que le fait d'être un demi-frère, une demi-sœur issu du don, ça serait un membre d'une famille qui serait élargie ? Donc ça, c'est vraiment une autre question.
C'est un beau sujet de réflexion, effectivement.
Voilà. Et typiquement Starbucks.
Typiquement voilà. Starbucks, c'est ça. Et la place aussi, la connaissance du donneur ? Est-ce que c'est une question qui se pose ou pas du tout ?
Alors oui, effectivement, en cas de passage à un système ouvert, eh bien, ça veut dire quoi un système ouvert ? Ça veut dire le choix du donneur, par exemple sur catalogue. Il y a certains pays qui fonctionnent comme cela. Eh bien, le donneur est complètement identifié. Et là se pose la question aussi, justement, dans la famille, est-ce qu'il reste un tiers donneur qui participe à la possibilité d'avoir un enfant uniquement, ou est-ce qu'il devient un membre de la famille à part entière, en fait. On le voit dans le film Starbucks, là aussi, où il prend une place particulière auprès des enfants dont il a... Enfin, issu de ses dons de gamètes, quoi.
À voir absolument, finalement.
Oui, effectivement, je profite pour rebondir sur la question européenne, et notamment celle qui avait été annoncée par Katia avec la mise en œuvre très prochaine, dans un an, en août 2027, du règlement SOO. Effectivement, la question du don, de don emporté va se poser, y compris dans le cadre du PMA, puisque le règlement s'applique aux procédures de procréation médicalement assistée et les substances d'origine humaine, plus particulièrement les cellules reproductrices, sont sont conservées en vue de ce type de procédure. Alors c'est vrai que d'autres questions éthiques vont se poser sur l'importation, bien sûr déjà, sur la mise en place de certaines pratiques nationales qui ne cadrent pas forcément avec la pratique française du don, la conception française du don en tant qu'acte altruiste. Donc il y a toute une problématique sur la gratuité du don, sur la rémunération, sur l'indemnisation. Tout cela sont des expressions différentes du principe du don gratuit, non rémunéré, acte altruiste, et la marge nationale de mise en œuvre et d'appréciation dès lors qu'il s'agit du don, notamment sous forme d'indemnisation ou de compensation liée au désagrément du don. Et le règlement SOO, je pense que sur ce point, pose quand même une problématique essentielle parce que lui-même n'est pas très au fait sur les concepts sur lesquels il se fonde. Cela s'explique dans un premier temps, c'est qu'il regroupe deux directives, celle de 2002 et de 2004, la première relative au sang et l'autre relative au don de tissus et de cellules humaines. Or, la logique n'est pas la même avec le don du sang, avec la gratuité du sang par rapport au don de cellules et de tissus humains, puisque le désagrément lié au don est peut-être un peu plus important que lorsqu'il s'agit du don de sang. Et là où la question peut se poser, effectivement, c'est la mise en place d'une administration européenne du don avec une autorité nationale compétente en matière de SOO, substance d'origine humaine, mais aussi la mise en place, la reconnaissance, l'inscription de ce qu'on va appeler des entités SOO, parmi lesquelles toutes les instances, notamment les centres de PMA, etc., vont recevoir cette qualification, mais également vont être mises sur un pied d'égalité avec les autres autorités d'autres États membres. Et là, la mise en place d'un comité de coordination qui va recueillir sur une plateforme non seulement le don déjà donné dans toutes ces entités au niveau de l'Union européenne, donc tous les dons vont être identifiés et étiquetés sur cette plateforme européenne, mais aussi toutes les pratiques nationales sur la gratuité du don, sur l'évolution des législations nationales, y compris sur la mise en place d'un régime de sanctions qui sera progressivement mise en place au sein des États membres jusqu'en 2029, donc de nature y compris pénale. Donc on peut avoir aussi la mise en place des infractions pénales et des sanctions pénales aussi, vont être recueillies sur cette plateforme. Et c'est le comité de coordination SOO qui est déjà mis en place, qui fonctionne depuis août 2024, presque un mois après la publication du règlement journal officiel de l'Union européenne, va avoir ce regard, ce droit de regard, pour lisser ou pour essayer de faire converger les pratiques nationales compte tenu des disparités qu'on peut constater. Et je pense que ces questions-là vont davantage se reposer dans un contexte plus européen où on a clairement un objectif de sécurité publique, de santé publique, autosuffisance de l'Union européenne en SOO, donc c'est un objectif stratégique, et la réalisation d'une politique de santé publique au niveau de l'Union européenne. Et c'est dans ce contexte aussi, je fais la liaison avec la dernière thématique, qui reste quand même plutôt une préoccupation aussi française, mais pas seulement compte tenu de la libre circulation et de la revendication aussi pour des femmes d'aller profiter des délais plus cléments pour accéder à une PMA, notamment dans le cadre d'une PMA post-mortem. Quelle est la tendance observée aujourd'hui actuellement, et est-ce qu'il y a véritablement une tendance favorable à l'évolution de la loi de 2021 sur cette question.
Alors, ce qui peut être important, c'est déjà de repréciser effectivement ce que c'est qu'une AMP post-mortem, quelle est la situation. Alors, c'est lorsqu'un couple était vraiment dans une démarche d'AMP au moment du décès de l'un des conjoints, le conjoint restant, pour l'instant, ne peut pas bénéficier des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons restant issu du couple. Et cependant, le survivant peut décider en fait de faire don de ses gamètes ou de ses embryons à un autre couple actuellement en démarche d'AMP.
Parallèlement, les veuves, elles peuvent réaliser une démarche d'AMP nouvelle pour bénéficier du sperme d'un donneur, mais qui ne sera pas celui de leur conjoint décédé. Alors, on s'est rendu compte que ces situations sont anecdotiques, mais elles sont aussi synonymes de souffrance qui s'ajoutent au deuil. Alors, est-ce qu'on doit faire évoluer la loi pour que, par le biais d'une directive anticipée qui concerne le gamète ou l'embryon, le conjoint restant puisse poursuivre seul le processus d'AMP? C'est une question, et question très complexe, d'autant plus que dans le cas où le survivant est un homme, cela ouvre la question de la gestation pour autrui.
Ces thématiques sont passionnantes, et d'autant plus pour nous juristes, puisqu'on les aborde au titre des libertés fondamentales, donc c'est toujours intéressant d'entendre aussi finalement d'autres disciplines ou comment les réflexions se font au sein d'autres entités comme donc celle de l'EREJ. Merci beaucoup Bénédicte Thirier et Gérard Audibert de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein donc de l'hôpital central de Nancy, et merci à Maria Fartunova, professeure de droit public à l'Université de Lorraine, d'avoir organisé cet échange. Pensez à vous abonner à nos chaînes et à nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des diffusions de nos épisodes. À bientôt sur toutes les plateformes de podcast.